Philippe et moi allons lire les textes qui vont servir à la prédication de Roger. Je vais commencer avec le texte dans 2 Corinthiens 4, les versets 7 à 10. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattu mais non anéanti. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. On va continuer la lecture dans Ruth, chapitre 1. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme, Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malchon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens, de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Oprah et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijlon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elles habitaient, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda.
Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi ? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée.
Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu irais, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur ?» C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge.
Nous prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous avons chanté ta bienveillance, ta bonté, ton amour fidèle qui dure à toujours, ta fidélité de génération en génération. Nous désirons ce matin encore entendre ta voix. Nous invoquons le secours de ton esprit. Rends nos cœurs sensibles à ce que tu veux nous dire encore ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. J'invite, si vous avez vos Bibles, à les ouvrir dans ce premier chapitre de Ruth, où nous allons rester autour de Pâques. Pourquoi le choix de ce livre de Ruth autour de Pâques, cette semaine, la semaine prochaine, et puis dans quelques semaines? Alors, c'est vrai, à Pâques, il y a grand danger de souffrir d'indigestion des œufs et des lapins. Et puis, donc c'est proposer peut-être quelque chose d'autre. Et ce livre, j'espère que nous allons nous rendre compte ensemble, son mouvement reflète le temps de Pâques, où on passe du vendredi de Pâques au dimanche de la résurrection, de la mort de Jésus, comme on a entendu dans la première lecture dans 2 Corinthiens 4, à la vie de Jésus. Vide, ça commence le livre de Ruth dans un dépouillement total pour terminer dans une plénitude et dans une espérance d'avenir. Alors voilà pour le mouvement du livre et pourquoi ce livre de Ruth vers Pâques. Et puis, donc, juste pour situer, avant d'entrer dans le texte, nous avons entendu l'introduction, le point de départ, situation de profonde détresse, 71 mots en hébreu, paraît-il, et on va arriver à la conclusion, annonce d'avenir et d'espérance, 71 mots en hébreu. Et puis, si vous calculez, le cœur du livre donne le message du livre. Mais ça, je vais vous dire tout à l'heure où ça se trouve. Parce que pour le moment, nous démarrons avec Naomi, dans vos différentes versions, c'est l'une ou l'autre. Alors, dans la mienne, c'était Noémie, on a entendu Naomi, mais je ne pense pas que c'est là l'important. Ici, dans ce premier chapitre, nous avons le retour du pays de Moab. Est-ce que c'était une erreur, un éloignement coupable, ce départ du pays de la promesse pour aller vivre dans la campagne de Moab? La phrase revient 5 fois dans ce premier chapitre, comme si c'était souligné ce séjour. Il faut dire que l'auteur n'avance pas de commentaires. Ce qui nous rappelle que pour nous aussi, il vaut mieux être prudent avant de se prononcer quant aux causes des malheurs, surtout des autres. En fait, l'auteur, lui, au contraire, va choisir de raconter son histoire à travers des échanges, des conversations, dialogues. Il y a 85 versets dans ce livre, donc vous pouvez calculer où se trouve le verset du milieu. Il y en a 50 que c'est de la dialogue. Donc c'est le livre qui porte le nom d'une femme, Ruth. Le seul autre, c'est Esther. Et on peut dire que, heureusement, que le livre s'agit beaucoup de femmes, sinon le texte aurait été beaucoup plus pauvre, pour ne pas dire beaucoup plus court. Naomi, comme beaucoup de femmes, on peut dire qu'elle n'a pas eu grand choix dans son exil. Elle se trouvait là-bas, dans le pays de Moab. Elle n'a pas pu choisir la condition où elle se trouve. Mais ce qui est surtout souligné dans cette introduction, c'est la fin du verset 5. Naomi resta privée de ses 2 enfants et de son mari. Elle se trouve veuve, privée de ses 2 fils. L'auteur veut nous faire comprendre qu'elle a vraiment touché le fond. À vue humaine, elle est sans avenir, seule, au point où elle dira, au verset 21, « Comblée, j'étais partie, même si c'était la famine, vide, l'Éternel me ramène. Ne m'appelez pas Naomi, appelez agréable, appelez-moi Mara, amère. » Donc c'est le constat qu'on serait tenté d'être d'accord avec elle. Dans ce constat, une femme abandonnée à son sort, sauf que nous allons voir que l'auteur fait tout pour prouver le contraire. Dans le livre de Ruth, si vous connaissez ce livre, nous allons le découvrir sinon ensemble, le livre s'appelle Ruth, mais en fait, chaque épisode revient à Naomi. Vous allez dire, le premier chapitre, c'est normal parce qu'il s'agit de son retour du pays de Moab à Bethléem et qu'elle sera accueillie à la fin du chapitre par les femmes de Bethléem. Vous l'avez entendu, est-ce là Naomi? Ainsi, verset 22, revint Naomi et avec elle sa fille, belle-fille Ruth. Mais Naomi est l'objet de l'attention de l'auteur. Chapitre 2, quand Ruth va aller glaner dans les champs de Boaz, ça termine avec la confession de foi de Naomi. Le cœur du livre, chapitre 2, verset 20, où elle parle du Rédempteur. Chapitre 3, c'est après la fête bien arrosée, c'est le suspense. Qu'est-ce qui va se passer dans l'ère de Boaz avec Ruth, mais le chapitre termine avec le débriefing de Noémie. Et puis le quatrième chapitre, il s'agit d'une rencontre du tribunal où va trancher la question de qui va se marier avec qui. L'auteur va dire tout ce que ça représente, chapitre 4, verset 14, pour Noémie. Les femmes dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur, dont le nom sera célébré en Israël. » Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein. Les voisins disent, « Un fils est né à Noémie. » Chaque chapitre revient sur Noémie et relève quelques provisions en sa faveur. Vous dites, et alors, qu'est-ce qu'il y a d'enthousiasme, enthousiasmant là-dedans? J'aimerais vous proposer que le Seigneur est manifestement préoccupé de son avenir à elle et va agir en conséquence. C'est impossible pour Dieu d'enlever son regard de cette pauvre veuve et de toutes les Noémie. Noémie est au centre de ses attentions et sera jamais oubliée. Et nous non plus quand on touche le fond. C'est vrai pour nous, même si maintenant c'est plutôt la famine que l'abondance. Voilà pour le retour de la campagne de Moab. Maintenant, nous allons quand même jeter un coup d'œil sur Ruth et cet attachement inattendu. D'où est venue cette attitude extraordinaire de Ruth? Cette résolution de rester attachée à Noémie, quoi qu'il en soit. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. C'est certainement pas Ruth, la Moabite, qui a lancé cette habitude de mauvaise plaisanterie sur les belles-mères. J'aimerais juste un instant, si vous permettez, les messieurs, m'adresser aux dames. Comment savoir, si vous n'êtes pas encore marié, quelle sera l'attitude dans la durée d'un futur conjoint? Alors, il faudrait bien observer l'attitude du prétendu envers sa maman. Est-ce qu'il est bien intentionné? Est-ce que c'est un tyran? Est-ce qu'il est loyal dans ses propos? Mais revenons à Ruth. Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple et ton Dieu est mon Dieu. Ne me pousse pas à te quitter. Ça nous rappelle quelque chose. Le premier culte de cette année où on a eu Jean-Jacques Mélan qui nous a parlé. Jésus, vous ne voulez pas vous en aller? Il a dit à ses disciples. Et la réponse, on se souvient. Mais vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ne critiquons pas Orpa qui, elle, voulait à nouveau devenir épouse, verset 9, Mais manifestement, la priorité de Ruth est tout ailleurs, au point où elle sera d'accord de rester fille, versets 11 et 12. Parce qu'une Moabite, quand elle traversait la frontière pour aller en Israël, n'avait pas beaucoup de chances de trouver un conjoint. Alors d'où est venue cette fidélité sans faille, cet engagement exemplaire de Ruth? Ce que j'aimerais vous proposer, c'est qu'elle a pu observer dans la vie de sa belle-mère, même si elle a perdu ses trois personnes les plus proches, et même ce qu'elle a vécu elle-même, la mort de Kilion, sa mari, elle a quand même constaté la bienveillance de Dieu auprès de sa belle-mère. Le mot est utilisé au verset 8, ce mot bienveillance, bonté, amour, loyauté, c'est le mot qui est employé quand Dieu parle de l'alliance qu'il nous propose. L'idée est l'amour comme fondement de la relation et une loyauté réciproque qui est le fruit de l'engagement. Vous dites, mais c'est invraisemblable. Elle a vu ça dans le parcours de Noémie, qui portait la mort du Christ, pour reprendre notre première lecture, dans son corps. Elle a pu vivre la vie du Christ dans la vie de cette dame. Mais est-ce que ce n'est pas là la marque des chrétiens de tous les temps? Une fois profondément visitée et touchée par l'amour de Dieu, ce n'est pas les circonstances adverses, si c'est le décès d'une bien-aimée, maladie ou autre chose, qui mettent fin à cet attachement. Ruth reflétait dans son attachement le Dieu qu'elle avait rencontré à travers sa belle-mère. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Dans une conversation cette semaine, j'étais interpellé très justement par une remarque. Il y a beaucoup de choses dans l'Église qui se font qui ne sont pas forcément reconnues ni mises en valeur. Cette fidélité en cachette. Donc j'ai pensé juste, sans être exhaustif, relever quelques exemples, les fleurs au culte, la décoration qui est là, la garderie qui est en cours, ceux qui s'occupent de nos enfants, Sono, site internet qui va de l'avant, le café que nous allons prendre après le culte, le nettoyage qui a eu lieu vendredi, toutes les commissions qui sont à l'œuvre, le conseil, le fil d'argent qui s'est retrouvé mardi, le mémo qui est à notre disposition à la sortie du culte et sa diffusion. Et la liste, extrêmement longue, continue. Une fidélité qui est parlante, comme était la fidélité d'une Naomi ou d'une Ruth. Un attachement envers et malgré tout. Maintenant, j'aimerais aller plus loin ce qui est derrière cet attachement de Ruth. Parce que ça se trouve finalement dans la rencontre avec l'éternel Dieu et sa présence. Ce mois de mars, sortant de l'hiver qui, avec l'âge, semble être de plus en plus lent, tout d'un coup, la nature s'est réveillée. Il y avait des signes partout annonçant le printemps, la promesse d'un renouvellement et les récoltes qui suivront. C'est comme ça que notre chapitre termine. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson. Ce n'est pas encore la plénitude, mais ce n'est plus non plus la famine. Il y a encore des pleurs, mais il y a lueur d'espérance. L'action de Dieu n'est pas encore très visible, mais il est présent. Mais présent, comment ça? Alors Ruth, elle, est sur le point de le découvrir à travers ses lois bienveillantes en faveur des défavorisés comme elle, les veuves, les orphelins, l'étranger. Loi mise en action par son peuple. Et Naomi est en voie de le constater aussi, que ce Dieu ne l'a point abandonné. Elle dira dans notre verset central de 20, « Oui, qu'il soit béni de l'Éternel, qui n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. » Dieu est en train d'agir déjà à travers cette belle fille, Ruth la Moabite, qui est venue réfugiée sous ses ailes. Devant cette situation apparemment désespérée, Dieu commence à pourvoir nourriture, tendre soin et finalement, une descendance. Celle qui est vide, j'emploie ces termes, sera comblée. L'étrangère de Moab recevra pleine citoyenneté dans sa nouvelle patrie. Une famille presque éteinte aura comme descendant le roi David et finalement, le Messie, le Christ Jésus. C'est un peu l'histoire de l'humanité, non? Mais déjà, je suis en train de parler, vendre la mèche de ce qu'on va voir par la suite. Pour le moment, nous laissons Noémie et Ruth entre les mains de ce Dieu qui, verset 6, est intervenu en faveur de son peuple. La descente dans la campagne de Moab avait abouti dans une situation désespérée qui met en relief le besoin du rachat d'un rédempteur. Impossible pour une Noémie de s'en sortir toute seule. Mais déjà, le Seigneur est à l'œuvre dans les coulisses, de par cet attachement tout à fait inattendu de cette femme de Moab. Il y a une main invisible qui dirigera avec bienveillance celles qui, envers et malgré tout, s'attendent à lui. Il y a des choses insoupçonnées qui se prépare.
J'écouterai ce que dit Dieu. Chose en paix.